Après le Pérou, la Colombie, l'Australie, l'Équateur et bien d'autres pays encore, Antoine Lissorgue, qui est originaire de Toulon dans le sud de la France, est aujourd'hui établi à San Cristóbal de Las Casas, une ville du Chiapas au Mexique. Sa passion pour l'international va de pair avec son engagement dans les ONG, notamment pour Terre des Hommes et Médecins du Monde. Antoine Lissorgue, qui travaille pour la branche suisse de Médecins du Monde au Mexique, est très inquiet quant à l'avenir de cette mission après la suppression du financement américain. Explication.
Alors, je suis arrivé en septembre 2022 au Mexique. Donc, il y avait eu cette opportunité avec Médecins du Monde Suisse pour prendre la coordination générale de la mission au Mexique. Et donc, j'avais été retenu pour le poste.
Concrètement, quelles sont les activités qui sont les vôtres au Mexique? Je crois savoir qu'il y a plusieurs volets dans vos activités sur place.
Oui, on a deux programmes principaux. Un programme que l'on mène à San Cristóbal de Las Casas, donc un projet de réduction de la violence de genre et promotion de la santé sexuelle et reproductive. Un travail de prévention des violences, puisque pour Médecins du Monde, la violence ou les violences constituent un véritable problème de santé publique. Donc on travaille dans la prévention dans les écoles, on fait aussi de la promotion de la santé sexuelle et reproductive. On travaille également dans les communautés, puis on a un travail sur les masculinités non violentes, notamment avec les chauffeurs, pour réduire le niveau de violence, harcèlement et autres dans le système de transport public. Ensuite, on travaille avec un centre pour femmes victimes de violences sur la prise en charge médicale d'un point de vue de la santé physique. On a également un travail à la prison pour femmes de San Cristobal, donc on travaille dans le pavillon des femmes. Et là, pareil, on fait aussi de la prise en charge sanitaire qui va de simples consultations. Et de temps en temps, on vient aussi avec des spécialistes pour des consultations, par exemple gynécologiques, aussi de l'odontologie. Et finalement, on a un dernier volet sur ce projet, sur le renforcement du système de santé publique. Là, on fait des formations en prévention de la violence obstétricale, où on forme une nouvelle génération de sages-femmes traditionnelles, puisqu'il faut savoir qu'au Chiapas, dans les zones rurales, c'est souvent les sages-femmes qui font tout le suivi prénatal des femmes qui vont accoucher. Donc il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes qui vont prendre le relais et qui vont devenir sages-femmes traditionnelles dans les communautés rurales. Donc ça, c'est le premier programme. Et puis le deuxième programme, c'est un programme plutôt d'aide humanitaire, avec une clinique mobile qui vise à prendre en charge principalement, mais pas que, mais principalement des populations migrantes, donc qui traversent en général le Mexique pour rejoindre les États-Unis. Donc là, on a cette clinique mobile qui est un petit camion avec deux salles de consultation, puis tout autour, on monte des tentes. Le principe, c'est d'être au plus près des personnes qui migrent. Donc on se déplace tous les jours à des points différents dans des villes qui sont à cheval entre l'État du Tabasco et du Chiapas, puisque c'est l'une des routes principales pour rentrer au Mexique. Donc là, on a des médecins qui vont soigner, je dirais en grande majorité, les maladies respiratoires, les maladies de la peau, les petites blessures qui sont liées finalement à de longues marches de la part des personnes qui migrent. Puis on a toujours 3-4% des cas qui sont quand même beaucoup plus lourds et plus complexes que l'on doit transférer au système de santé publique. Ensuite, on a un volet de santé mentale, puisque les personnes qui migrent ont soit été dans leur pays d'origine parfois victimes de certaines violences, ou décident de quitter leur pays, elles sont à nouveau parfois aussi victimes de violences le long de leur parcours migratoire, ce qui peut générer des traumas sur la durée. Et donc, on fait une prise en charge individuelle avec une approche clinique et une prise en charge au niveau psychiatrique. Enfin, on travaille avec le modèle MHGAP de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce qu'on appelle les premiers secours en psychiatrie. Ensuite, on a un volet de promotion à la santé. Donc là, on va vraiment faire de la prévention des maladies, prévention de la violence. Donc, on profite que les personnes soient dans cette petite salle d'attente que l'on installe sous une tente. Et là, plusieurs messages clés sont passés, notamment sur comment éviter tel type de maladies liées aux conditions d'hygiène et autres, ou les maladies, par exemple, transmises par des vecteurs, des moustiques et autres. Et un dernier volet qui est vraiment la prise en charge des violences basées sur le genre, donc en général, souvent des violences sexuelles. On a une personne qui reçoit spécifiquement ces cas et qui va ensuite les transférer selon le type de service que la personne va avoir besoin.
Le deuxième aspect de vos activités est essentiellement consacré aux migrants.
Exactement. Le deuxième programme est exclusivement sur les migrants. On devait également développer un projet sur la frontière nord du Mexique et donc sud des États-Unis, dans le Tamaulipas. Mais effectivement, avec les nouvelles politiques migratoires du nouveau gouvernement de Donald Trump, il y a eu un coup d'arrêt, on va dire, au développement de la mission pour développer de nouvelles actions.
Vos activités sont essentiellement financées par les États-Unis.
Alors une partie des activités, pas toutes les activités, peut-être le premier programme qui n'est pas migration, donc on a eu la très bonne nouvelle qu'on a reçu un financement du ministère des Affaires étrangères français. Mais par contre, c'est vrai que sur le projet de prise en charge sanitaire des populations migrantes, nous étions principalement financés par une agence du département d'État des États-Unis. On avait aussi d'autres financements d'une agence onusienne. Mais c'est vrai que à 90%, c'était des financements qui provenaient des États-Unis.
Bah alors, les coupes budgétaires décidées et annoncées par le président Donald Trump vous impactent forcément?
Oui, elle nous impacte. D'une part, je dirais, je parle souvent de cette triple peine. Elle impacte tout d'abord les personnes que l'on soigne, les personnes à qui l'on vient en soutien. L'année dernière, ça a été quand même 7 000 personnes qui ont été prises en charge au sein de notre clinique mobile, à la fois sur le volet psychologique, sur le volet médical, sur les violences de genre. Donc, il y a un premier impact pour ces personnes-là qui vont rester sur le bord de la route, très certainement, si jamais nos programmes doivent arriver à terme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, ça nous impacte au niveau de nos équipes. J'ai actuellement 12 personnes qui travaillent sur le projet de la clinique mobile. Et puis, je dirais, la troisième peine, c'est qu'aujourd'hui, on est attaqué de plein fouet sur nos valeurs, sur les valeurs que défend Médecins du Monde, à savoir le travail auprès des personnes migrantes, le travail sur l'égalité de genre, et puis finalement la solidarité internationale, la justice sociale. Comme je le répète souvent, chez Médecins du Monde, on ne soigne pas que des personnes, on soigne aussi l'injustice. Donc voilà, on est vraiment attaqué de plein fouet à ce niveau-là. Par ces coupures de financement, on parle de, pour nous, cette année, quasiment 400 000 dollars, puis il devait rester encore une année supplémentaire de projet jusqu'à septembre 2026.
Normalement, c'est à la fin de ce mois d'avril que tout devrait
Oui.
s'arrêter.
De toute façon, on a reçu une première lettre via une organisation avec qui on travaille en consortium, nous disant d'arrêter toutes nos activités pour 3 mois. C'était le 27 janvier. C'est ce qu'on appelle en anglais le freezing, un gel de nos activités, parce que les États-Unis, donc le département d'État, devait réviser notre programme sous 3 mois. Finalement, le 26 février, on a reçu une lettre comme quoi la collaboration prenait fin et donc nous ne recevrions plus de financement alors qu'il y avait un engagement qui avait été pris, un contrat qui avait été signé pour cette année jusque fin septembre, qui correspond plus ou moins à l'année fiscale américaine. Puis ensuite, il devait y avoir une année supplémentaire. Donc évidemment, ça a été très difficile parce que sur le moment, on demande d'arrêter sous 24 heures. Ce qui est extrêmement difficile, parce qu'on a des personnes qui suivent des traitements, on a des personnes qui sont en suivi psychologique. Arrêter en 24 heures, c'est extrêmement compliqué. Puis on a surtout une éthique professionnelle. On ne peut pas laisser des patients sur le bord de la route du jour au lendemain. Donc il y a une décision qui a été prise au niveau de notre siège en Suisse, où la direction a dit, nous engageons des frais, nous allons assumer ces frais supplémentaires jusqu'au 30 avril. Ce qui nous permettait de nous retourner et éventuellement de trouver de nouveaux bailleurs de fonds, même si on sait que la situation actuelle est compliquée aussi en Europe et dans d'autres pays.
Parlant de nouveaux bailleurs, est-ce que vous avez des pistes de compensation justement?
Alors oui, on a eu une bonne nouvelle justement, donc on est content. On va recevoir un financement de l'Union européenne qui ne viendra pas évidemment compenser les pertes que nous avons subies de la part du gouvernement américain, mais ça va nous permettre en tout cas de donner une continuité au programme que nous menons actuellement. Ça va nous permettre de nous donner un peu d'air et puis de continuer à chercher auprès d'autres bailleurs de fonds, des fondations privées et autres.
Alors, vous avez également des problèmes avec ce mouvement de migrants qui veulent aller aux États-Unis. Les nouvelles politiques américaines vous freinent?
Dans notre travail, je dirais pas directement, puisque nous agissons sur le sol mexicain. Ce qui est sûr, c'est que pour une personne aujourd'hui, toucher le rêve américain va être beaucoup plus difficile sur les prochaines années. D'une part, parce qu'il y a eu un renforcement des contrôles migratoires avec l'envoi de patrouilles militaires aussi bien du côté mexicain que du côté américain. Ce qui, d'un côté, décourage les personnes à migrer. Mais la migration reste un phénomène millénaire, comme je le dis toujours. Il y aura peut-être un coup d'arrêt sur les premiers mois, mais quand les personnes sont décidées à migrer, sont décidées à avoir une vie meilleure, ils recommenceront ce parcours migratoire, puisque c'est l'une des principales routes migratoires au niveau mondial. Et le Mexique est un peu la dernière étape avant d'arriver aux États-Unis. Ce qui change actuellement, ce qu'on a vu depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, c'est un petit peu la dynamique, puisqu'on avait notamment nombreuses personnes qui étaient au Mexique, qui attendaient d'avoir un rendez-vous via une application qui s'appelle CBP One, qui permettait de rentrer de manière régulière aux États-Unis. Donc les personnes, ce rendez-vous se faisait via une application en ligne, mais ça pouvait prendre parfois jusqu'à 8 mois. Et depuis l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier, cette application a été annulée par les États-Unis. Donc on se retrouve avec des centaines de milliers de personnes qui étaient en attente et qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans aucune possibilité de rejoindre de manière régulière les États-Unis et donc qui se retrouvent au Mexique. Alors ces personnes-là, aujourd'hui, soit elles décident de faire le chemin retour, soit elles décident d'attendre au Mexique et donc d'essayer de rejoindre des villes comme Monterrey, Ciudad de México, qui sont des villes où il y a plus d'opportunités d'un point de vue de l'emploi, par exemple. Elles peuvent demander l'asile au Mexique aussi. Donc voilà, elles essaient de trouver différentes possibilités ou solutions jusqu'à ce qu'il y ait des mesures peut-être qui assouplissent cette possibilité de pouvoir rentrer aux États-Unis. Le chemin retour est aussi une option. J'ai pu échanger il y a peu avec des personnes du Venezuela, notamment, qui souhaitaient faire le chemin retour, redescendre, traverser le détroit du Darién pour rejoindre le Venezuela. Sauf que c'est un parcours qui est vraiment semé d'embûches, ou un parcours migratoire qui est très difficile parce qu'il comporte beaucoup de risques d'extorsion, des risques d'être soumis à des violences sexuelles sur ce parcours-là. Donc, les personnes qui ont déjà fait ce chemin-là, de le faire à nouveau dans le sens inverse, c'est quelque chose de très compliqué.
Comment voyez-vous l'avenir?
C'est difficile pour nous, médecins du monde. Quelque part, nous avons cette responsabilité, ce devoir de continuer le travail que nous menons, qui le fera si nous ne le faisons pas. On voit bien que d'autres organisations sont touchées également par ces coupures budgétaires. Donc, on voit des acteurs qui ont dû arrêter leur projet sous 24 heures, sous 72 heures. Donc, pour nous, l'avenir, je dirais, il est aujourd'hui à la résistance. D'une part, une résistance pour essayer justement de trouver ces financements, aller chercher ces financements pour pouvoir continuer à faire notre travail. Et en parallèle, c'est tirer la sonnette d'alarme pour dire que ce qui est en train de se passer est complètement irrationnel, que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. On ne peut pas couper des financements du jour au lendemain. Il y a un tas de pays, de populations vulnérables qui dépendent de cette aide internationale. Après, évidemment, chaque pays est souverain et a le droit de faire ce qu'il veut, mais il y a une responsabilité morale, éthique et je dirais au niveau mondial sur ce qui va se passer dans l'avenir. On l'a vu avec le Covid, les grandes épidémies, ce n'est pas un problème de frontières. Les épidémies traversent les frontières. Donc, un problème mondial, il faut une réponse et une solution mondiale qui soit pensée entre tous les pays.